Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À la technique et à la réalisation, toujours un complice, Yanis, et votre serviteur, Andrés Atenza. Nous recevons aujourd'hui M. Gilles Castel, directeur adjoint du service protection des majeurs de l'association ANRAS. Il est également aujourd'hui le dirigeant dans un mandat de gestion pour contrôler et suivre les travaux de l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées à Lourdes. Monsieur Castel, vous êtes diplômé d'un master spécialisé en management des structures sanitaires et sociales. Vous avez commencé votre carrière comme éducateur scolaire. Très vite, vous avez beaucoup de talent. Directeur adjoint au pôle éducatif et social professionnel Olympe de Gouges, dans la région de l'Aude, Castelnaudary. Vous êtes titulaire également d'un master de philosophie. D'ailleurs, il faut toujours de la philosophie pour être un grand humaniste. Et aujourd'hui, pour parler de la protection des majeurs, les tutelles, curatelles, renforcées ou autres, vous verrez un maquis. Arrêtons-nous un moment. Près de 800 personnes dans notre pays ne sont pas en mesure de faire valoir leur intérêt de façon pleine et entière en raison de l'altération de leur faculté mentale ou physique. Ces personnes bénéficient donc d'une mesure de protection. C'est 800 personnes, 800 000 personnes, pardon, c'est 800 000 personnes, et ce chiffre risque peut-être de connaître une hausse significative dans l'avenir, compte tenu du vieillissement de la population française. Il est nécessaire, donc, me semble-t-il, d'y voir clair, de comprendre comment fonctionne la protection des majeurs dans notre pays. Il est important d'aborder cette question parce que souvent, ce système de protection des majeurs est critiqué. Beaucoup de faits divers. Parfois, les organismes internationaux pointent les difficultés de la France à faire respecter les droits de ses citoyens. Ils ne sont pas des sous-citoyens. Donc, je répète, il est important d'y voir clair, de comprendre ce maquis. Quel est le rôle du mandataire judiciaire? Quelle formation? Quelle garantie pour protéger les majeurs? Quel est le rôle du juge aux tutelles? Et quelles sont les différences entre les diverses mesures administratives? La loi dit qu'il faut protéger sans réduire le majeur, qu'il faut protéger sans diminuer la personne vulnérable, qu'il faut recueillir son consentement, qu'il faut l'accompagner, mais qu'il faut aussi respecter ses droits fondamentaux, sa dignité, préserver son autonomie. Comment fait-on pour protéger les majeurs dans de telles circonstances? Monsieur Gilles Castel, vous allez nous éclairer et vous allez essayer, en tout cas avec beaucoup de pédagogie, vous avez commencé comme enseignant, peut-être pour nos auditeurs, essayer de comprendre tout cela. D'abord, le métier de mandataire judiciaire, pouvez-vous l'expliciter?
Oui, alors merci beaucoup déjà de m'accueillir. Bonjour à vous tous. Un sujet très vaste, il faudrait y passer, j'imagine, beaucoup de temps pour pouvoir véritablement aborder tous ces points. Vous avez abordé déjà un point essentiel, c'est qu'entendons-nous derrière la protection des majeurs. C'est toute la difficulté que nous rencontrons de nos jours, malgré effectivement nombre de perceptions, nombre d'opinions constitutives et même d'a priori venant à la fois des citoyens et même des partenaires proches avec qui nous travaillons, dans une approche toujours très vague, pas très concrète de cette mesure de protection. Alors bien évidemment, quand on a déjà du mal à saisir toutes les subtilités des mesures de protection, qu'en est-il véritablement des fonctions d'un mandataire judiciaire ou d'un service tutélaire? Oui, plus de 800 000 personnes sont concernées par ces mesures de protection qui pourtant viennent finaliser toute une démarche puisque la législation et l'organisation prévue au niveau de l'État français part du principe que c'est d'abord aux familles de mener encore et encore au mieux l'accompagnement de leurs proches ou des personnes qui leur sont les plus proches. Quoi, hein.
Mais souvent les familles ne sont pas en mesure de pouvoir exercer cette mesure.
Tout à fait.
C'est cela.
Tout à fait. Et puis, on se rend compte combien dans nos services tutélaires, nous travaillons avec des gens qui sont aussi seuls. La solitude est très importante aussi. Je le cite parce que souvent, on ne se rend pas compte de combien de personnes peuvent vivre isolées. Alors, qu'est-ce qui se joue ? Depuis la nouvelle réglementation qui a réformé la protection des majeurs en 2007, il y a eu un renversement total de nos perceptions et de nos organisations sur justement la protection de ces 10 majeurs qui sont, comme vous l'avez clairement indiqué, des citoyens à part entière. Il faut simplement se rappeler qu'avant 2007, ces personnes-là étaient nommées des incapables. Il y a 15 ans en arrière. Donc c'est quand même très stigmatisant que d'imaginer que du jour au lendemain, vous et moi puissions être traduits, véritablement réduits à l'état d'incapable. La loi de 2007, ça a été le moyen justement de renverser cette donne en indiquant que ces personnes, ce sont des personnes comme vous et moi qui, dans leur situation de vie, font que, eh bien, ils se retrouvent avec des altérations, quelles qu'elles soient, de leurs facultés mentales ou physiques, qui font que ça les empêche véritablement de concevoir l'expression de leur volonté et qui sont souvent dans l'impossibilité de pouvoir seuls à leurs intérêts. Comment alors accompagner ces personnes ? Alors la réglementation est très claire, on parle d'ailleurs au niveau de la loi d'assistance ou de représentation, c'est-à-dire que véritablement les mandataires judiciaires ont pour fonction de conseiller, de soutenir, d'assister, et comme vous l'avez clairement dit, en aucun cas de réduire ou véritablement de se substituer à la personne. Et ça c'est un renversement énorme. Je tiens à préciser d'ailleurs que les mesures de protection ne sont jamais des mesures actées par le juge à vie, quelle que soit la maladie ou la difficulté qui sont la vôtre. Sachant.
Ça veut dire qu'il y a bien une durée, c'est circonscrit dans le
tout
temps.
Tout à fait.
Vous pouvez avoir une mesure de tutelle, on y reviendra tout à l'heure pour y voir clair dans les définitions de tutelle, curatelle ou autre. Cela veut dire que le juge, une décision administrative, mais c'est toujours le juge, peut dire c'est 3 mois, 6 mois, un an. Et on doit revenir à quelque chose d'ordinaire. C'est bien
voilà.
Cela que vous êtes en train de dire.
Tout à fait. La plupart du temps, on est sur des durées minimum de 5 ans.
D'accord.
Dans lequel, effectivement, arrivé à ces 5 ans, il y a une nouvelle audience par le juge de façon à pouvoir effectivement rencontrer la personne en question, les accompagnants que nous sommes, dans le but d'évaluer à nouveau, si véritablement la mesure qui a été octroyée correspond réellement aux capacités de la personne, si elle se doit d'être allégée, aggravée, retirée. Donc, on est véritablement dans un processus où le mandataire n'a absolument pas, et ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à comprendre, puisque ce n'était absolument pas cette approche-là avant 2007, ne doit aucunement se substituer à la personne.
Il n'est pas tout puissant. Le mandataire n'est pas tout puissant. Cependant, il peut gérer les comptes financiers de la personne protégée, son compte en banque. Le mandataire peut payer l'eau, le gaz, l'électricité. Le mandataire peut gérer l'argent de poche, pourrait-on dire, du majeur protégé, mais en aucun cas, il est tout puissant, il doit toujours avoir le consentement de la personne. C'est bien cela.
C'est cela. D'où le fait que même la législation a mis en place ce qu'on appelle les DIPM, les documents individuels, où effectivement on recueille tous les ans les souhaits, les désirs, les envies des personnes protégées pour les accompagner au mieux. Alors pourquoi ces documents-là, entre autres? Parce que effectivement, il serait plus simple, on va le dire comme ça, pour des professionnels que de se positionner en sachant toujours ce qui serait le mieux pour la personne. Sauf que la personne n'est peut-être pas dans cette même perception de la réalité, n'est peut-être pas dans ses choix de vie-là, et donc il n'est absolument pas question d'indiquer à la personne comment elle se doit de vivre. Ce ne sont pas, et je reprends d'ailleurs une citation que je reprends assez couramment, qui est de Madame Pecot-Rivolier, qui est une conseillère référendaire à la Cour de cassation, et qui avait cité, lors de ses discours, l'approche d'une définition d'un majeur protégé. Et pour elle, la définition, c'est qu'un majeur protégé, justement, n'est pas un mineur en devenir. Il n'a pas besoin d'être éduqué ou surveillé dans ses actes. Il a besoin juste que ses libertés soient préservées grâce à l'intervention d'une personne qui pourra lui assurer une information adaptée, le conseiller souvent, l'aider parfois et le représenter exceptionnellement.
Et les mandataires aujourd'hui font cela, soit comme mandataire privé, cela existe aujourd'hui.
Tout à fait.
Et c'est un métier qui est régulé. Mmh. Bien entendu, il faut prêter serment, hein, vous nous expliquerez après la formation. Et il y a des organismes comme le vôtre qui sont des services gérés par des associations à but non lucratif qui gèrent un certain nombre de mesures pour ce qui vous concerne, le service que vous gérez de l'ANRAS, protection de majeurs, c'est 830 mesures, c'est-à-dire que vous suivez 830 majeurs protégés dans l'année, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Et tout au long de l'année, vos équipes suivent, hommes ou femmes, mandataires, suivent les personnes. Est-ce que vous pouvez nous donner, avant de revenir encore sur les mandataires, le profil de ces personnes? Et ce sont des personnes qui sont dans des établissements, des EHPAD, qui sont dans des établissements spécialisés, handicap ou autres, qui sont des personnes qui sont, bien entendu, dans le logement ordinaire ou chez eux. Est-ce que ce sont des personnes qui sont mariées ou pas? Est-ce que ce sont des personnes... Est-ce que vous pouvez nous tracer peut-être le portrait type? Est-ce que ça existe, le portrait robot?
Alors,
de la personne?
Je ne sais pas si le portrait robot d'une personne protégée existe, mais en tout cas, c'est le béaba, on va dire, du citoyen lambda. Mmh. Des personnes qui, effectivement, peuvent connaître des difficultés d'ordre physique dans le parcours de leur vie. Des personnes qui, effectivement... peuvent, au regard d'un contexte particulier, familial ou autre, eh bien, se retrouver dans une forme de vulnérabilité et qui nécessitera véritablement d'être accompagnée et soutenue. Des personnes qui, oui, peuvent également vieillir, des personnes qui sont réellement malades, des personnes qui sont en établissement ou à domicile. Chez nous, on est plus sur des mesures de personnes qui sont à domicile qu'en établissement. Et puis aussi, bien évidemment, toutes les questions liées aux pathologies, aux troubles psy, qui sont quand même assez nombreux également et dans lesquels il y a nécessité aussi de les accompagner.
Quand le juge décide d'une mesure de protection de majeur, donc tutelle ou curatelle ou autre, comment cela arrive sur le bureau du juge? Il y a bien quelqu'un qui fait un signalement, il y a bien quelqu'un qui dit « attention, cette personne, ou le voisin, ou la voisine, je sens qu'il y a une difficulté ». Dites-moi comment ça se passe.
Oui, c'est la plupart du temps, ce sont des signalements soit de personnes qui sont proches, soit de la famille elle-même qui peut se retrouver en difficulté pour accompagner et concevoir le suivi, ou véritablement la perception de personnes qui se mettent en danger et qui deviennent véritablement vulnérables. La particularité de ces mesures de protection, c'est que, quoi qu'il en soit, le juge ne peut véritablement mettre en place une mesure judiciaire que selon décision médicale.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un médecin qui, de par le diagnostic, le constat qu'il fait, justifie lui-même la nécessité d'une mesure de protection. À partir de là, les avantages, on va dire, du juge de nos jours, c'est qu'il a devant lui un panel de mesures qu'il peut attribuer en prenant justement en considération les capacités de cette personne pour, encore une fois, éviter de minimiser ou d'infantiliser la personne et pour lui permettre, et c'est le but véritablement des mesures de protection et de notre travail, de les ramener à véritablement une autonomie.
Alors tentons une définition, tutelle, curatelle, curatelle renforcée, je ne sais pas si cela existe, dites-nous quelles sont les définitions.
Les mesures les plus courantes sont bien évidemment les curatelles, curatelle simple, curatelle renforcée, curatelle aménagée. Quand on parle de curatelle, c'est-à-dire que véritablement nous sommes dans une démarche d'assistance. On est là pour conseiller, soutenir, mais la loi est très claire. Le mandataire ne doit en aucune façon outrepasser ses droits. C'est-à-dire que, à la question « est-ce que le mandataire a tout pouvoir ?» Absolument pas.
Alors, concrètement, il peut faire quoi quand il y a cette curatelle ? Que fait le mandataire ?
Alors, il gère la plupart du temps toute la question financière. Il gère bien évidemment après toutes les démarches. Alors, c'est très large, c'est très vaste. On est à la fois sur des démarches administratives.
Voilà. Comme la personne ne sait pas remplir le CERFA, ne sait pas remplir
un document. Mettre en place une assurance, concevoir toute démarche, constituer peut-être un dossier MDPH au regard de son âge ou de ses difficultés, peut-être concevoir ou rechercher toute orientation possible adaptée à sa situation,
peut-être l'aider pour à trouver un logement adapté, c'est cela.
Par exemple, on est vraiment dans toutes les approches, à la fois administratives, sociales, juridiques, patrimoniales aussi. On se retrouve avec des personnes qui peuvent se retrouver confrontées à des successions
et qui ne savent pas gérer ce problème,
qui n'arrivent pas à véritablement mener. Voilà. Mais c'est toujours et uniquement relié à un état de santé qui nécessite véritablement cette protection. Est-ce que véritablement une personne qui est à la rue ou qui est surendettée sera mise sous protection ? Non, absolument pas. Ce n'est pas le travail d'un service mandataire. L'objectif, c'est véritablement, au regard de l'état de santé, de prendre en considération justement l'état de santé de la personne pour essayer encore et encore, dans une logique, je pars toujours des principes que les mandataires sont dans véritablement une fonction d'adaptabilité, de pouvoir véritablement concevoir, et on va employer encore un mot qu'on utilise de plus en plus, mais je pense que notre service y travaille beaucoup, c'est la question de l'éthique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une réglementation, certes, il y a un mandat bien défini du juge qui nous indique ce sur quoi on doit véritablement agir, et puis après vous avez en face véritablement la personne protégée aussi, qui a ses choix de vie, qui a ses décisions, qui a ses envies. Il y a aussi les tiers, qui peuvent être la famille, qui attendent de nous presque des miracles, en tout cas de pouvoir répondre plus vite dans l'urgence à tout ce qui pourrait poser difficultés. Et puis peut-être aussi les partenaires et autres. La logique, c'est justement de pouvoir encore et encore déplacer ces curseurs pour, dans une démarche justement éthique, voir le positionnement qui va pouvoir être le nôtre en tant que professionnel pour ne pas outrepasser, comme je le disais tout à l'heure, à la fois nos droits et nos fonctions, tout en prenant en considération, bien évidemment, les attentes du majeur.
Là, vous venez de parler de curatelle. Alors la tutelle,
alors, la
ça
tutelle,
veut dire c'est quelque chose de supérieur.
Voilà, c'est une mesure qui est beaucoup plus lourde, dans le sens où quand on parle de tutelle, inévitablement, on est face à des personnes qui vont être beaucoup plus en difficulté pour pouvoir faire avec nous. Donc, la plupart du temps, nous allons être plutôt dans une représentation de la personne. Nous allons être beaucoup plus décisionnaires dans véritablement les choix qui seront réalisés, même si, dans les tutelles, nous devons encore et encore de prendre en considération, tant que c'est possible, tant que la situation de la personne le permet, eh bien, ses choix de vie, même ses choix peut-être antérieurs, peut-être reliés auprès de ses enfants, auprès de la famille, prendre en considération justement ce qu'est la personne, ce qu'elle était ou ce qu'elle souhaitait ou ce qu'elle souhaite encore dans ses propos, pour ne pas, là encore une fois, être en décalage en se disant qu'on fait bien notre travail puisque nous avons par exemple ouvert l'ensemble des droits et constitué l'ensemble des dossiers, mais il faut encore et encore pouvoir prendre l'avis de la personne dans l'orientation qui va être la nôtre.
Alors vous dites tutelle, bon, c'est supérieur, c'est plus lourd en termes donc de contrôle, pourrait-on dire, d'assistance à la personne, des choses très concrètes. Ça veut dire que vous gérez le compte bancaire de la personne.
Tout à fait.
S'il a une carte bleue, vous lui enlevez la carte bleue, vous lui prenez. J'ai des questions concrètes parce que les auditeurs ne savent pas très bien. Et puis, on voit souvent des faits divers quand on parle à la télévision. Si on fait, je ne voudrais pas faire ici une pub des médias, mais souvent on fait du M6 ou du BFM, c'est-à-dire le fait divers. Nous ne sommes pas là pour faire du fait divers, nous sommes là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Une personne qui a des difficultés, il faut payer l'eau, le gaz, l'électricité,
tout à
c'est
fait.
Bien
c'est
cela.
Qui
il faut payer l'assurance, il faut qu'il fasse ses courses, et souvent, il a peut-être des dettes. Donc voilà, quand on arrive à une tutelle, c'est lourd pour la personne. Donc il faut vraiment l'aider.
C'est également lourd sur une curatelle, si on peut parler de lourdeur, puisque dans la logique, la démarche n'est pas de concevoir une lourdeur. C'est au contraire d'essayer de défendre, via la personne protégée, ses libertés et ses droits. C'est de prendre en considération justement que quelle que soit la maladie, la déficience, la problématique constitutive de la personne, nous sommes là pour le soutenir, l'accompagner. C'est difficile à entendre parce que, inévitablement, quand on se retrouve sous mesure de protection, bien, c'est quand même très...
Ça peut être violent quand on reçoit une notification administrative du juge. Monsieur, madame, demain, un mandataire judiciaire va venir chez vous. Il y aura un entretien et vous devez remettre un certain nombre de choses. C'est violent.
C'est d'autant plus violent que ça se fait sous forme de courrier officiel, d'une décision judiciaire. Donc, vous allez récupérer le matin les publicités dans votre boîte aux lettres et vous apprenez qu'à compter de ce jour, vous êtes sous mesure de protection. C'est à ce moment-là, effectivement, que nous nous rapprochons de la personne, que nous tapons à sa porte pour lui dire que désormais, donc... nous voilà dans cet accompagnement-là, qui inévitablement s'inscrit dans une forme de reconnaissance et de bienveillance de la personne, mais qui en fait devient un peu inquisiteur, puisque nous allons le jour même lui indiquer bien évidemment toute l'organisation constitutive de sa mesure, mais nous allons devoir lui réceptionner son chéquier, sa carte bleue, l'ensemble de ses courriers. Nous avons une obligation de faire un inventaire de ses biens. C'est très intrusif. Pour la personne.
Il faut donc une psychologie particulière. Et comme on dit, il faut peut-être laisser une place à une personne. Vos professionnels sont aguerris à ce type d'exercice. On va parler sur la formation. Donc, peut-être je vous propose de faire une place, Julien Clerc.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir, que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint au teint lointain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je t'aime.
le temps passe à pas géants. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi.
Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Aujourd'hui, avec Gilles Castel, nous parlons de la protection des majeurs, un service au service, bien entendu, des majeurs protégés, des personnes vulnérables. Il faut gérer des mesures de protection dans un dialogue permanent avec la personne protégée, oui, au plus près de sa volonté, avec une juste distance, avec beaucoup de discernement. Protéger sans diminuer, sans réduire, nous l'avons dit, chercher un sens à cet accompagnement. On demande beaucoup de compétences dans ces moments. Alors, comment on forme un mandataire judiciaire? C'est une formation, c'est un diplôme, c'est un certificat. C'est un certificat reconnu professionnellement par l'État français. Est-ce que vous voulez en dire un peu
plus? Oui, alors... Paradoxalement, j'ai envie de dire qu'il se joue malgré tout sur le secteur de la protection des majeurs une grande évolution. On est dans de nombreuses réflexions, ça évolue grandement, mais peut-être trop lentement vis-à-vis des personnes protégées et de nos propres mandats. Oui, de nos jours, vous ne pouvez pas...
Vous installer,
fonction,
on ne peut pas s'installer
voilà,
comme mandataire judiciaire sans passer par les...
Il y a un CNC qu'on appelle, qui est véritablement
un certificat
national de compétences.
De compétences, d'accord.
Qui s'impose véritablement. Alors, dans nos associations, dans nos services, on peut tout à fait concevoir l'embauche de professionnels, des CESF, des éducateurs spécialisés ou d'accord. Des personnes qui peuvent aussi venir du droit.
Mais droit, par exemple, un bachelor, une licence, une maîtrise de droit,
tout à fait.
On peut travailler dans la protection des majeurs.
Alors, on peut travailler, sauf que nous sommes limités à 2 années. C'est-à-dire
d'accord.
Que durant ces 2 ans, l'employeur a obligation de faire en sorte que son salarié puisse véritablement obtenir ce CNC.
Dans ce certificat national de compétences. C'est combien d'heures de formation?
Alors, je ne serai pas en heure, mais effectivement...
Combien de journées de formation?
Il y a quand même un an et demi dans sa généralité qui, à la fois, est relié à des semaines, on va dire, par mois de formation. Et il y a également un nombre d'heures de stage en entreprise ou en poste, bien évidemment, si vous êtes en poste, pour véritablement appréhender la fonction de mandataire qui est, encore une fois, comme je le disais, très large. Quand on perçoit cette approche de l'extérieur, c'est vrai que je dis souvent à mes salariés, quoi qu'il en soit, si j'étais moi-même personne protégée, puisqu'on m'a retiré quelque part les capacités qui, soi-disant, je n'aurais plus
à gérer votre vie,
j'imagine que vous, en face, vous êtes des experts.
D'accord. Donc il faut une expertise administrative, un peu financière, comptable.
C'est très large.
Et droit, bien entendu.
Oui, judiciaire, patrimonial, etc. Mais effectivement, tout ça est très varié en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de votre situation de vie. Donc il y a beaucoup de paramétrages à prendre en compte, et là pour le coup, qui est de notre responsabilité. Quand le CNC est acquis, il y a également... véritablement la question du serment devant
Alors, voilà.
le juge.
Il faut prêter serment. Donc c'est un métier régulé, comme on dit.
Tout à fait. Mais nous le souhaiterions beaucoup plus reconnu
D'accord.
et valorisé à sa juste valeur au regard véritablement de toute la difficulté constitutive de cette fonction et du travail qui est véritablement préconisé. Au-delà des difficultés, je tiens à préciser quand même que sur un service comme le nôtre, un mandataire judiciaire peut avoir la plupart du temps, au moins à sa charge, entre guillemets, 65 mesures.
D'accord. Donc, il suit donc, 65 personnes physiques. D'accord.
Ce qui est quand même un nombre...
C'est quand même assez lourd.
Ah, hein. C'est extrêmement lourd. Ce
n'est pas une question qui va piquer, comme on dit, et vous mettre en difficulté, M. Castel, mais au niveau de la qualité, 60 mesures pour une seule personne, avez-vous des problèmes dits liés à la qualité, à la question du suivi des personnes? Et comme je sais que vous faites régulièrement... une étude et une enquête de satisfaction quand oui. même des usagers et de ses bénéficiaires. Est-ce que les bénéficiaires considèrent que le travail est bien fait?
Alors, bien évidemment qu'il y a des aspects que l'on pourrait traduire comme négatifs ou en tout cas dans lesquels on pourrait concevoir de réelles améliorations.
D'accord.
À la fois, bien évidemment, auprès des personnes protégées. Une personne protégée, vous comprenez bien qu'au regard de la situation qui est la sienne, elle a encore et encore besoin de soutien, de conseils, d'accompagnement du mandataire ou du référent attitré. Donc il y a des personnes qui pourraient appeler 10 fois par jour ou rencontrer 10 fois par jour le mandataire pour être véritablement soutenu et accompagné. La difficulté également qui est la leur, c'est de pouvoir justement rentrer en contact avec nous, être en lien avec nous, parce qu'effectivement, la mandataire ne peut pas gérer en 35 heures, de la même façon, 65 personnes. Donc, le temps nous manque encore et encore, toujours. Et on est aussi dans un positionnement où, au-delà de concevoir véritablement une forme de responsabilité constante et un peu méprisante à notre égard, eh bien effectivement, on est nous-mêmes dans des logiques d'évaluation, d'autocritique pour essayer de se perfectionner, de s'améliorer. Mais bon, je ne vous le cache pas, on a beau tourner et retourner la question. Quand vous travaillez 35 heures sur une semaine et que vous avez un si grand nombre de personnes toutes plus en difficulté, bien évidemment, les unes que les autres, toutes dans des attentes et des urgences constantes.
Et tout est urgent, bien évidemment.
Tout est urgent, qu'il est très difficile et qu'il est de plus en plus, presque j'ai envie de dire, inacceptable pour nous, en tant que professionnels, de devoir subir, en fait, ce que la personne protégée elle-même subit de notre part, à savoir notre incapacité à pouvoir se présenter à elle comme nous le souhaiterions, à pouvoir peut-être employer des termes qui nous sont chers, comme le terme d'accompagnement. Mais comment pouvons-nous accompagner véritablement au regard de ce nombre?
Monsieur Cassette, j'ai quelques témoignages, c'est quand même intéressant pour comprendre comment cela s'appelle. C'est un témoignage d'une certaine Véronique. Je m'appelle Véronique, je suis tombée dans le trou noir, c'est son verbatim, c'est elle qui nous dit cela, dans le trou noir d'une dépression. À l'époque, je travaillais à la mairie, j'ai eu des problèmes familiaux, des gros soucis avec mes filles. Mais voulant garder la face, entre guillemets, j'ai caché et assumé mes problèmes seul. Je n'ouvrais plus ma boîte aux lettres, je me retrouvais avec des mauvaises nouvelles, je ne payais plus, je suis rentré en maladie, en longue maladie, je termine par une invalidité. Mon médecin m'a parlé d'une mise sous tutelle, donc le signalement c'est le médecin. Une chose à laquelle je ne pensais pas, je n'étais pas d'accord d'abord. Ensuite, le juge de tutelle m'a désigné une personne, elle m'a suivi, elle m'a aidé pendant 6 mois. J'ai pu éponger mes dettes, etc., etc. Quelque chose de positif. Je vous donne un autre témoignage, une certaine Madame Paul. Depuis que je suis sous curatelle, ma vie a changé. J'étais incapable de gérer mon compte. Je faisais des achats compulsifs, etc. C'est ce genre de situations et de personnes que vous gérez dans vos services.
Oui, beaucoup de situations, je ne vous le cache pas, qui sont très délicates. Et quand ça arrive véritablement à une mesure de protection et que ces mesures sont par exemple orientées au sein de l'ANRAS, je ne vous cache pas que déjà souvent les situations se veulent fort complexes. Je ne vous cache pas non plus de la force constitutive des mandataires judiciaires pour véritablement, toujours dans une approche professionnelle, essayer de soutenir, d'accompagner, d'écouter, de concevoir une confiance face quand même à des vies très dramatique qu'on rencontre, des maladies, des crises constitutives des personnes qui sont très difficiles à gérer et sur lesquelles, c'est pour ça que je reprends le terme d'adaptabilité, nos professionnels font encore et encore et cherchent bien évidemment à garder le temps nécessaire pour pouvoir véritablement rentrer en relation avec ces personnes.
Comment est financé ce service de tutelle ou curatelle, étant donné qu'il y a une décision du juge? Tout cela est financé par quoi? C'est l'État?
C'est tout à fait, c'est l'État.
Est-ce que le majeur participe ou pas? Est-ce qu'il y a une prestation de service? Et donc, le client final, abordons cette question sans sujet tabou. Alors, dites-nous.
Alors oui, effectivement, c'est totalement relié à l'État.
Quel ministère?
Avec la cohésion sociale.
C'est la cohésion sociale.
Tout à fait. Et qui gère réellement toute la question des mesures de protection. Donc, on est, nous, sur notre service, sur ce qu'on appellerait... couramment une dotation globale reliée justement à un nombre de mesures attribuées et bien évidemment au regard du nombre de TP constitutifs de notre service. Et à votre question, est-ce qu'il y a une participation des majeurs? Oui, il y a une participation également avec un critère très clairement
simple,
défini.
Peut-être. Il y a un algorithme.
Tout à fait, et qui est totalement relié en fait aux revenus constitutifs de la personne. C'est revenu d'ailleurs, enfin, la question de la participation des personnes. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais très souvent, on m'indique que cette participation s'impose puisqu'elle fait partie aussi de la posture et de la capacité de la personne protégée à concevoir que véritablement, on vient, nous-mêmes, l'ANRAS et d'autres
services. Et qu'il y a
services.
Une certaine autodétermination.
Oui.
On pourrait le dire comme ça.
Oui. Ouais. Et que quelque part, il y aurait une prestation aussi qui devrait être, à laquelle il devrait participer. Je ne rentrerai pas dans les polémiques, mais c'est vrai que l'année 2020 fut très compliquée puisqu'il y avait eu quand même une décision de l'État de modifier cette organisation au niveau des échelons avec, curieusement, une obligation de participation pour les personnes qui étaient au plus bas et qui étaient normalement exonérées de ces financements, notamment pour les personnes qui touchent, par exemple, simplement l'AH.
D'accord. L'AH, c'est
les aides, voilà, l'allocation aide handicapée.
Handicap. D'accord.
Ça n'a pas fait de bruit, puisque je crois qu'on n'en a pas entendu parler, si ce n'est que dans nos structures sociales et médico-sociales, nous étions quand même quelque peu outrés d'imaginer que les personnes les plus pauvres...
Et les nombreuses fédérations se sont émues et ont remonté ces informations auprès du ministère.
Tout à fait.
Bien évidemment.
Et il y a eu un retour en arrière.
Il y a un retour en arrière, là, parce que les associations... ont manifesté clairement qu'il y avait là de l'injustice.
Oui, parce qu'après, ça ne peut être que l'affaire de 6 euros par mois, mais quand vous avez véritablement un salaire très bas, que vous vous maintenez comme vous pouvez dans cette question de vie, vous voyez bien, même quand on a nos propres salaires, combien nous sommes les premiers à râler, que dès qu'il y a des augmentations, c'est compliqué. Donc, effectivement, ces participations-là étaient difficiles.
Tout à l'heure, on parlait du portrait, mais peut-être pas le portrait, mais est-ce que vous avez une idée du revenu moyen des personnes que vous suivez qui
ça,
sont
ça peut être tout, vraiment à tout niveau, puisque nous avons aussi des salariés, des personnes qui travaillent et qui peuvent travailler aussi en ESAT ou autre, mais qui peuvent également avoir véritablement de l'emploi.
Un revenu, c'est-à-dire on peut avoir un revenu convenable
tout à fait,
et
tout à
être
fait.
Également quand même sous tutelle parce qu'il y a un
vous
problème psychique.
Vous pouvez aussi vous retrouver avec véritablement des revenus tout à fait acceptables, voire même avoir peut-être de nombreux
et du patrimoine.
Ça arrive aussi. Oui. Véritablement, on n'est pas sur ces questions-là. C'est au regard de l'état de santé de la personne et des conséquences et de la vulnérabilité qui peut en résulter. C'est pour ça que ces mesures, elles ont véritablement une importance dans la prise en considération, justement, des capacités, et non pas de l'incapacité, des capacités constitutives de la personne pour essayer encore et encore d'aménager une mesure qui serait la plus adaptée. C'est pour ça que j'osais dire tout à l'heure
vous
que
insistez,
oui,
sur
le mandataire
que la personne...
véritablement il faut il est toujours dans une démarche, je prenais le terme de curseur tout à l'heure, pour essayer encore et encore à la fois de répondre à son mandat mais aussi de prendre en considération véritablement les attentes de la personne. C'est très complexe parce qu'on n'en a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi le temps. Donc, on essaie de faire au plus vite, mais au mieux, dans une bienveillance de nos actions. On peut concevoir peut-être de réaliser nombre de démarches plus vite que prévu pour que véritablement la personne puisse avoir les droits et le financement qui en résulte. Mais dans la réalité, je me répète, avec les personnes sous curatelle, je me dois encore et encore de faire avec, puisque mon objectif, c'est de former, on va le dire comme ça, ou d'accompagner, ou de soutenir, ou d'expliquer la démarche qu'il y a à faire pour que justement cette mesure puisse s'arrêter.
Puisse s'arrêter le plus rapidement possible.
Mais bien sûr.
Combien de personnes travaillent dans votre service pour 830 mesures? Vous avez combien de salariés?
On est à peu près une trentaine de salariés. Et sur les 30 salariés, il y a 14 mandataires judiciaires.
Et les autres personnes, ce sont des secrétaires, assistantes?
Oui, on a ce qu'on appelle des assistantes tutélaires. Il y a une assistante tutélaire pour deux mandataires. Simplement, donc, je vous l'aurais compris, dans une logique de démarche administrative, bien vu sûr. La lourdeur des actions à mener réellement. Et puis après, il y a aussi ce que nous appelons des comptables majeurs qui gèrent l'ensemble des factures constitutives des personnes protégées. Et puis après, nous avons toute une réglementation en lien avec les chefs de service et autres, puisque nous sommes bien évidemment, malgré l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, de M6 pour ne pas les citer. Oui, effectivement, nous sommes
très contrôlés
sur contrôlés. Les comptes rendus de gestion annuels, sur véritablement toutes les décisions particulières que nous pouvons prendre. D'ailleurs, nombre de ces décisions sont reliées à des requêtes auprès du juge pour que le juge lui-même nous octroie tel ou tel accord.
Cela veut dire que régulièrement, vous rencontrez les juges ou vos chefs de service rencontrent régulièrement les juges, vous faites des rapports réguliers sur la situation des majeurs.
Bien sûr, bien sûr.
Un travail administratif difficile. Vous êtes, je vous ai dit en démarrant, j'ai dit en démarrant cette émission que vous étiez également mandat de gestion et vous dirigez l'association tutélaire du 65. C'est également une association importante, 630 mesures, c'est ça?
À peu près, oui.
À peu près, combien de nombre de salariés également dans ce
alors là,
service?
Un nombre un peu plus... Il y a à peu près 16 personnes qui sont sur ce service-là, avec, relié, on va le dire, au département constitutif des Hautes-Pyrénées, beaucoup plus, par contre, de mesures en établissement. Plus de 50 personnes,
quand on dit établissement, ça peut être des EHPAD, des établissements spécialisés pour personnes handicapées.
Tout à fait.
Des personnes qui ont des déficiences cognitives ou pas.
Oui,
avez ce type de...
Et c'est là aussi qu'il y a une gymnastique à avoir quand on est mandataire pour passer d'une situation à une autre sans que véritablement certains majeurs puissent se sentir aussi, je reprends le terme, d'infantiliser ou de réduire parce que les majeurs sont capables aussi de nous dire par moment « j'ai très bien compris ».
Est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres organismes, on peut le citer parce que l'économie sociale et solidaire, je pense qu'il est nécessaire de le mettre en avant. Quels sont les organismes qui s'occupent, par exemple sur la Haute-Garonne, dans notre département, des tutelles et curatelles?
Mais on connaît bien évidemment de façon nationale l'UDAF.
L'UDAF,
qui est réellement...
Qui initialement...
Tout à fait.
Et historiquement, pourrait-on dire. Historiquement, faisait ce travail, oui.
Et sur la Haute-Garonne, nous travaillons également, il y a l'AT, qui est aussi sur un service tutélaire, le groupe Réseau, qui est également, et puis ensuite... Tous les partenaires, alors vous l'avez cité aussi, les mandataires privés, qui sont quand même nombreux. Et ensuite, c'est véritablement un travail de partenariat avec tout partenaire, que ce soit les banques, les CCAS, les CHRS. Enfin, vraiment, c'est très large de façon à pouvoir, au regard de la situation des personnes, accompagner encore et encore au mieux, dans une démarche collective, la personne, puisque, je me répète aussi, non, le mandataire physiquement ne peut pas accompagner, le mandataire ne fait pas tout, le mandataire ne gère pas l'intégralité des démarches. C'est véritablement dans un travail collectif, dans une cohésion liée à ce partenariat que nous arrivons justement...
Je force le trait, le mandataire ne fait pas les courses du majeur protégé.
Alors, il pourrait y être, il pourrait, puisque d'ailleurs, ça pourrait être suscité comme une critique, mais non, il ne le fait pas.
Non, je dis cela parce qu'il y a toute une... Il y a des représentations liées à ce métier, il y a des représentations liées, j'ai dit cela en introduction, parfois la France est pointée en disant que cette loi quand même est une loi qui respecte peu le citoyen et donc beaucoup de critiques sur ce système.
Oui.
Dans les autres pays européens, cela se passe d'autre façon, les majeurs protégés sont différents. Donc voilà, mais c'est historique, quoi. Mais ces questions-là, il faut quand même les voir, quoi. Il faut pas.
Cette critique,
il faut l'assumer.
Il faut se dire aussi que la reconnaissance des services tutélaires en tant que service médico-social, c'est assez récent aussi. Donc ça, c'est venu changer également toute la donne avec la prise en compte aussi de la loi de 2002, véritablement l'usager. Au centre même du dispositif, comme on le connaît, l'ensemble des documents, les projets de service, les évaluations internes. Enfin, tout cela est rentré aussi pour justifier, et je suis, allez, je veux le dire ainsi, très fier, moi, de travailler également auprès d'une association et tout particulièrement de l'ANRAS, parce que c'est peut-être aussi encore, pour nous, professionnels, une force de dire oui. Effectivement, nous travaillons sur un service tutélaire, mais nous cherchons encore et encore à être plus près des personnes, voire même d'être dans la proximité de ces personnes, même si effectivement, on ne peut pas accompagner physiquement.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'éthique. On va y revenir sur cette éthique professionnelle particulière dans l'exercice de ce métier et comment on accompagne, quelle est la posture éthique que nous devons avoir ou que doivent avoir, bien entendu, vos salariés. Et bien entendu, de nombreuses fédérations et la Fédération des associations tutélaires a produit un ouvrage majeur sur la question de l'éthique. Mais avant, je vous propose une autre musique qui vient du Sud. Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. Aujourd'hui, mon invité, Gilles Castel, qui gère un service de tutelle dans le département de la Haute-Garonne et dans le département du 65, donc les Hautes-Pyrénées. Nous avons abordé la question des mandataires, des personnes protégées, la formation des mandataires, le lien avec les juges, c'est important, métier très régulier. Et il faut parler aujourd'hui, peut-être encore une fois, de cette question de la reconnaissance professionnelle et l'éthique de cette mandataire. Il faut rappeler quelques lois majeures, vous l'avez dit. D'abord la loi du 5 mars 2007, qui fonde donc la protection des majeurs et le mandataire judiciaire, protection des personnes vulnérables. C'est un métier de référent juridique, social, des problématiques de personnes. Il faut bien entendu protéger l'intérêt de l'autonomie de la personne protégée, cette fameuse autodétermination des personnes vulnérables. Nous l'avons dit et vous l'avez, à juste titre, mentionné et fortement, d'ailleurs avec véhémence, ce sont des citoyens, ce ne sont pas des sous-citoyens, ils ne sont pas réduits. Pour cela, il faut une certaine éthique, une certaine posture. Comment vous faites, Monsieur Castel, pour faire en sorte qu'il y ait une vraie réflexion dans vos services avec vos salariés sur cette question éthique? Y a-t-il des séminaires réguliers sur cette question? Invitez-vous des philosophes, des sociologues pour aborder la question éthique dans ce métier? Comment travaillez-vous, bref, comment travaillez-vous cette question éthique avec vos salariés?
Alors, on travaille déjà au sein de l'association. Donc, l'association nous ouvre également à ces nombreux colloques ou formations mutualisées et autres. On travaille bien évidemment dans des formations constantes, collectives ou individuelles, puisque nous avons encore et encore, en tant que professionnels, besoin de se former, d'apprendre, de découvrir. Nous travaillons également en interne dans nos organisations sur ce que nous nommons des copiles, c'est-à-dire véritablement des espaces-temps dans lesquels nous nous octroyons le moyen de quand même réfléchir sur certaines de nos démarches, remettre en question peut-être certaines de nos organisations, aborder certaines questions ou réformes constitutives de la société. Il y a une réflexion constante. Je pense que ce que nous essayons de mettre en place, en tout cas sur nos services, c'est d'abord, j'ai envie de dire, la prise en considération de qui nous sommes déjà en tant que professionnels. Je pense que la fonction de mandataire nécessite de se connaître aussi, pour pouvoir véritablement être en lien et concevoir...
Et accepter des situations très difficiles.
Complètement, c'est très
compliqué. Qui peuvent être très violentes.
Tout à fait, c'est pour ça que d'ailleurs dans nos services, nous avons décidé de mettre en place aussi auprès d'accompagnement, de psychologues, des analyses des pratiques par exemple, pour véritablement avoir des espaces dans lesquels on puisse travailler peut-être des difficultés constitutives de mesures de protection, mais aussi... des difficultés qu'on peut rencontrer en tant que professionnel dans une approche plus
question
clinique.
Question éthique et simple. Est-ce que le mandataire judiciaire se déplace à domicile de la personne protégée? Et quand le mandataire judiciaire se déplace, qu'il rentre dans le domicile de la personne, il ouvre les placards, il est intrusif, il regarde le frigo? C'est des questions simples. Est-ce qu'il fait cela ou est-ce que vous dites non, il y a des choses qu'on ne doit pas faire?
Alors tout dépend, bien évidemment, l'objectif c'est pas d'être intrusif.
Est-ce qu'il s'adresse au majeur en disant n'oubliez pas, il faut nettoyer votre logement est sale, il va falloir le nettoyer? Il dit quoi, le mandataire?
Alors le mandataire, il essaie surtout de concevoir une relation et une mise en confiance constante. L'objectif, c'est pas de ni stigmatiser la personne, parce que on pourrait tout à fait montrer du doigt peut-être des logements insalubres ou autres, mais
ça arrive souvent.
Mais oui, ça arrive, ça bien arrive. Évidemment. Mais c'est souvent aussi relié à des maladies.
Mais à ce moment-là, que fait le mandataire? Il fait de nouveau un signalement? Il appelle
Alors,
quelqu'un
tout dépend,
pour
effectivement.
Il appelle
c'est
quelqu'un
toujours,
pour nettoyer.
Bien sûr, c'est toujours la même question, à savoir véritablement qu'est-ce qu'on peut mettre en place si on perçoit que dans la situation constitutive de la personne, dans sa vie et dans ce que le mandataire peut véritablement observer ou comprendre, la démarche de savoir est-ce qu'on n'est pas quand même déjà dans une mise en danger. Ça peut être aussi véritablement cette approche-là. Donc effectivement, c'est là qu'on va aussi travailler avec des partenaires ou prendre
des
décisions. Avec
des assistants sociaux,
assistants
sociaux et éventuellement le conseil départemental ou autre.
La question en fait
remonter...
est toujours la même. Si le mandataire prend une posture qui se veut trop indélicate ou un peu, pour être plus bref, rentre dedans, ça va être très difficile de pouvoir mener la mesure. Il faut qu'il y ait cette possibilité de concevoir cette confiance. Il faut que véritablement le majeur, à un moment donné, accepte aussi, entre guillemets, cette intrusion et comprenne que cette mesure de protection, en fait, est avantageuse pour
lui.
Et on le verra bien sur les enquêtes de satisfaction que nous gérons tous les deux ans au sein de l'ANRAS. Nous avons...
cette enquête de satisfaction, oui. vous l'envoyez également aux partenaires, vous l'envoyez aux majeurs. Est-ce qu'il y a de la transparence, pourrait-on dire, sur cette question?
Oui, puisque l'objectif pour nous dans ces enquêtes de satisfaction, ce n'est pas simplement de répondre à une norme, c'est de pouvoir utiliser justement tout ce qui peut être critique à notre égard pour, dans nos plans d'amélioration, dans nos évaluations, prendre en compte, bien évidemment, le discours de la personne protégée. Elle est quand même la mieux placée au regard de sa situation pour nous dire ce qu'elle trouve de positif ou de négatif dans l'accompagnement qui est le nôtre. Ce que l'on sait surtout, c'est que, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, quand je prends connaissance de ces enquêtes et que j'en conçois moi-même les analyses, on s'aperçoit quand même que sur la plus grande majorité des mesures de protection, les personnes comprennent qu'il y a véritablement cette nécessité d'être soutenue, d'être accompagnée. Et vous l'avez cité tout à l'heure, quelques témoignages de personnes protégées qui viennent véritablement nous
spontanément,
indiquer.
Spontanément, pourrait-on dire.
Mais oui,
spontanément, remercier le service parce qu'on a passé une époque difficile et aujourd'hui ça va mieux.
Par contre, ce qui est très compliqué pour ces personnes, c'est la difficulté qui est la leur pour se faire, entre guillemets, respecter dans les droits qui sont les leurs auprès de nombreux partenaires. C'est vrai que les personnes qui peuvent être sous curatelle peuvent très bien aller dans tous les services comme tout un chacun, comme tout citoyen, mais peuvent par moments se retrouver stigmatisées parce que vous n'avez pas le droit de demander telle chose. Où est votre curateur? On veut une signature de votre tuteur. Vous n'avez pas, etc., alors qu'ils sont dans leurs droits. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué avec les personnes protégées. Et à ce titre, d'ailleurs, il y avait eu un groupe de réflexion qui avait été mené au sein de l'ANRAS auprès de personnes qui étaient sous curatelle renforcée et sur lequel nous avions longuement réfléchi dans une perspective pour essayer de soutenir les personnes dans les difficultés rencontrées. Et on avait mis en place un petit outil qui existe toujours, qui fait partie de nos documents officiels à ce jour, qui était une petite carte qui rappelait quand même les droits constitutifs de la personne. Et quand la personne se retrouve en difficulté au guichet, quel qu'il soit, elle peut présenter cette carte pour rappeler que la personne qui est en face d'elle est en train de se positionner dans quelque chose qui est illégal.
Vous restaurez du droit là où parfois le droit
tout à fait
est oublié. Vous venez restaurer du droit et rappeler aux personnes en face que cette personne-là est un citoyen avec ses droits et des obligations, bien évidemment. Une autre question sur les personnes
Je voulais juste vous dire que dans la philosophie un peu qui est la nôtre, elle est quand même assez simple sur notre service. Il y a deux points. La première, essayer dans une forme de cohérence d'imaginer que cette personne protégée, ça peut être nous demain. Ça, c'est quand même très important. Et si on se met dans ce positionnement-là, ce qui sera peut-être le cas d'ailleurs, comment je voudrais véritablement être soutenu, accompagné et orienté dans les actions et dans la prise en considération de mes attentes. Ça, c'est un premier point. Et le second point, qui est aussi travaillé au sein de nos projets de service, entre autres, c'est si demain je suis sous mesure de protection, pourquoi, en plus, j'exigerai que la mesure soit véritablement orientée auprès de l'association ANRAS? Qu'est-ce qui fait la spécificité de notre service? Qu'est-ce que nous voulons défendre comme valeur? Voilà, ça, je tiens véritablement à l'indiquer parce que nous travaillons dans cette cohésion, dans cette cohérence d'avoir un sens commun dans, encore, la valeur de ce qu'est l'humain.
Est-ce que cela veut dire que si le juge vous donne des mesures, ou vous octroie des mesures, est-ce que vous pouvez les refuser? Vous pouvez dire, oh non, monsieur le juge, je ne les prends pas.
Alors,
il faut être très discret et prendre les précautions oratoires.
Alors, dans la logique, non, bien
non,
évidemment.
Il faut obéir au juge.
Mais j'ai envie de dire, paradoxalement, c'est quelque chose que je fais pas couramment,
pas
mais
courant.
Presque. Alors, ce n'est pas dans un refus des mesures, c'est tout simplement que nous sommes aussi dans un contexte très difficile dans le secteur, on va le dire comme ça, de l'aide à la personne. Nous avons énormément de mal à recruter des professionnels dignes de ce nom qui sont prêts à s'engager face véritablement à une profession très difficile à mener, très lourde, peu reconnue, peu valorisée, dans lequel vous avez beaucoup de critiques multiples et variées alors que vous n'êtes encore et encore que dans une démarche pour répondre à l'urgence et pour faire au mieux. Donc on est dans cette logique-là. Et puis, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a la question aussi de la qualité. Nous, on veut bien recevoir nombre de mesures, mais à un moment donné, il faut s'arrêter aussi pour savoir quelle est véritablement la démarche qui est la nôtre et jusqu'où nous accepterions d'être entre guillemets, proche d'une forme de maltraitance. Moi, si je suis personne protégée et que je ne peux même pas être entendu de mon mandataire, vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir l'accepter.
Pendant ces deux années de crise pandémique, de folie pandémique, est-ce qu'il y a eu plus de mesures, plus de personnes protégée? Quelle est votre analyse?
Non, pas plus de mesures, parce qu'en fait, ça a été quand même très chaotique à tous les niveaux et pour tout un chacun. Les personnes protégées avec, d'autant plus que parmi ces personnes protégées, il pouvait y avoir aussi des personnes qui n'en ont pas compris la situation, qui n'ont pas compris ou qui n'ont toujours pas peut-être compris aussi véritablement le contexte. Donc la situation a surtout été difficile dans le sens où, encore une fois, j'ai envie de dire, quand on a parlé de confinement, nous n'étions pas confinés. Hein. Bien au contraire, nous étions...
Votre métier n'a pas été confiné.
Ben non, nous étions au plus près, encore et encore, des personnes protégées, comme on a pu, dans des situations complexes, à concevoir des réorganisations, des... je reprends le terme, des adaptabilités, pour que véritablement nous puissions mener encore et encore, coûte que coûte, cet accompagnement.
Une dernière question, les majeurs protégés ont-elles, ces majeurs protégés, filles, garçons, ont-elles des addictions, drogue ou autre, alcool, ou ce sont des personnes, pourrait-on dire, c'est comme la population normale, ordinaire. Non, il n'y a
c'est
pas plus, il n'y a pas moins.
C'est-à-dire que dans la population normale, ben voilà. Oui, il y a des, voilà, y a des addictions ça. Aussi. Alors, est-ce que c'est
non,
au mandataire
ce
de gérer ce genre de démarche?
Ce que je vous dis, M. Cassel, ce n'est pas une population particulière
non.
qui est ciblée
non.
pour te dire qu'il y aurait ce type de pathologie ou addiction. Non. Non, vous trouvez cela...
Véritablement, il y a toute situation.
Il y a toute situation.
Il y a d'accord. toute situation. C'est pour ça que la question, justement, des altérités constitutives, elles peuvent être aussi des altérités purement physiques. Mmh. Hein. Voilà, les personnes ont véritablement aussi, pour nombre d'entre elles, j'ai envie de dire, tout à fait leur raison. Donc, c'est comment vous rentrez aussi en relation et en contact, en prenant en considération, justement, ces difficultés, cette vulnérabilité. Et je me répète, en respectant le mandat qui m'a été octroyé par le juge et qui définit clairement si c'est renforcé, aménagé, si c'est une curatelle, si on est encore sur des sauvegardes de justice ou pas. Enfin, c'est de savoir véritablement comment je place le curseur pour répondre au mieux à la fois à la loi, tout en ne perdant jamais de vue véritablement le choix de vie de la personne.
Sentinelle Humanité se termine. Merci, monsieur Gilles Cassel.
Un grand merci à vous.
Alors, votre métier vous plaît, vous parlez avec beaucoup de passion, vous défendez vos majeurs, vous allez continuer à faire ce métier combien de temps?
Je ne sais pas. Je viens de la protection de l'enfance. Le saut, on va dire, dans la protection des majeurs a été un challenge. Oui, je suis malgré tout très passionné par ce métier, parce que je me dis que même si les services tutélaires sont beaucoup critiqués et jugés, que feraient véritablement ces personnes-là? Et encore, je me répète, si c'était nous demain, on a besoin véritablement de professionnels qui, au-delà de ce manque de reconnaissance, sont encore là présents et s'investissent tous les jours pour mener à bien véritablement le soutien auprès de ces personnes.
Merci pour votre engagement, Sentinelle d'Humanité, Esprit Occitanie, toujours à vos côtés, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why.